I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avant de commencer cet épisode, nous voulions vous parler d'un autre podcast que j'ai lancé. C'est Héloïse qui vous parle. La Buissonnière. La Buissonnière est un documentaire audio sous la forme d'un podcast en 28 épisodes, avec un nouvel épisode tous les mercredis. Durant un an, j'ai enregistré les enfants de la classe de maternelle de l'école de Vence. Cette école est le berceau de la pédagogie freinée, car c'est l'école que le pédagogue a lui-même créée. L'école est aujourd'hui publique et continue de pratiquer cette pédagogie. Dans la Buissonnière, on écoute les enfants nous parler, nous expliquer, mais surtout, on les écoute grandir et apprendre. C'est beau, doux, et ça fait du bien d'entendre ces enfants. Après être allé écouter les mamies pour comprendre d'où l'on vient, je voulais aller écouter les enfants pour savoir où l'on a envie d'aller. On espère que ce nouveau podcast vous plaira et on a hâte d'avoir vos retours. Retrouvez la Buissonnière sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles. Bonne écoute.
Entrez.
Bonjour. Voilà, je fais des faux bisous.
Voilà.
Des faux bisous.
Très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir.
Ressemblez à mes parents ? Ah non, pas du tout.
Aucune femme ne recourt de détecteur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
Libère la femme, libère la femme, libère la femme.
Qui on va fréquenter ? Les grands-mères ?
Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse et aujourd'hui nous allons chez Noël.
Ça c'est mon espièglerie. Mais vous êtes toute jeune.
Mais oui.
Une de vous qui va avancer ce fauteuil parce qu'il est un petit peu lourd pour moi.
Notre tour d'horizon des mamies de France s'est achevé il y a plus d'un an chez Noël. Et quelle rencontre ! Nous l'avons choisie pour achever notre troisième saison, car son franc-parler et son histoire sont rares. Vous allez le comprendre très vite. Noël a vécu la guerre de près, l'Afrique coloniale, un accouchement atypique entre autres aventures. On vous laisse maintenant savourer chaque seconde de son récit. Vous allez l'entendre, c'est passionnant.
Alors, mes petites amies, dites-moi un petit peu. Vous êtes toutes les deux enquêtrices. Enfin.
Oui, non. J'adore quand on dit ça.
Vous êtes Marion.
Oui, c'est moi.
C'est ça.
Et Héloïse. Et
c'est ça.
Voilà.
Alors, j'ai lu votre livre.
Ah, ok. Bon,
voilà. Mais il circule. Alors, ma jeune enfance, je suis fille de militaire de carrière et j'ai vécu. Une vie de petite fille très heureuse, très heureuse. Mes parents, mon père travaillait comme militaire sous la ligne Maginot. La ligne Maginot étant la défense pour 1940 contre les Allemands. Mais les Allemands ont contourné et sont passés par la Belgique. Donc ça n'a servi à rien. Je suis de 1933. Donc j'avais 4-5 ans. J'ai le souvenir de mes parents, très beaux, parce qu'ils avaient 30 ans, 35 ans, et j'habitais Metz, où nous sommes restés jusqu'à la guerre. Donc mes grands-parents habitaient Nancy, et quand nous y allions, surtout moi j'y étais pas mal, ma grand-mère était très mélomane et m'a beaucoup emmenée au concert. Tous les dimanches soirs, on allait au concert, elle avait un abonnement à l'année. Donc, on est arrivé à la guerre. Et mon père s'est engagé pour une mission qui s'appelait la mission de Norvège. Comme jeune capitaine, il est parti avec un bataillon, je ne sais pas exactement combien d'hommes, sur un bateau, mais ils ont été obligés de revenir parce que la bataille de France s'est rapidement développée et papa a été fait prisonnier. Donc nous avons quitté Metz avec maman et mes trois frères pour venir nous installer à Nancy. Mon père étant fait prisonnier dans le nord de la France et rejoignant un camp pour les officiers à pied, avec à peu près 400 km pour aller être prisonnier en Allemagne. Et je ne l'ai pas revu pendant 5 ans. Papa est revenu en 1945. Et pendant toute la guerre, mon papa, c'était un héros pour moi. C'était un merveilleux monsieur. Et j'en ai fait un peu une icône. Mais il me manquait, donc je me suis trouvé un autre papa, qui n'était pas l'amant de ma mère, hein, je vous dis ça tout de suite. Mais il habitait notre immeuble, il avait une très très grosse qualité, c'est qu'il dirigeait une usine de chocolat. Et comme on avait faim et pas de chocolat, de temps en temps j'avais droit à un petit carré. J'aimais beaucoup ce monsieur, parce que c'était mon papa chocolat, quoi. Je suis restée donc 5 ans complets sans voir mon papa et je pense que ça a énormément marqué ma vie de petite fille sans que ce soit dit. Et maintenant, avec le recul, je crois que mes frères et moi, nous n'avons pas mesuré, maman non plus, nous n'avons pas mesuré la souffrance tue de mon papa. On ne lui a pas posé de questions parce qu'il est revenu en avril 1945 et la vie a repris tout de suite. Ils ont attendu un bébé, mais il y en a eu deux, il y a eu des jumeaux. Donc je suis affublée de 5 frères. À ce moment-là, il n'y avait pas de psychothérapie. Quand il y avait un bombardement à Nancy et qu'il y avait je ne sais pas combien de morts, nous qui étions dans les caves, on ne nous disait pas si vous avez eu peur, vous allez exprimer votre peur, soit avec un dessin, soit avec un entretien avec un psychologue. Bon, bah, ça passait comme ça. Et c'était très souvent à Nancy qu'on était dans la cave pour dormir. Maman avait organisé la cave avec des bas-flancs, des couvertures. Et quand la sirène sonnait, on descendait, on se couchait sur le bas-flanc, on dormait. Quand la sirène arrêtait, on remontait, voilà.
Et votre maman, pendant la guerre, elle...
Maman était femme au foyer, avec de pré-ados, on dira. Moi, petite fille, j'avais donc 7 ans. Elle a mis en pension mes deux frères aînés, parce que dans les pensions, ils avaient des possibilités de ravitaillement, comme c'était des groupes de jeunes. Il y avait des pommes de terre, il y avait un peu de viande, il y avait des poulets, il y avait... voilà. Et moi, je peux vous dire vraiment, en toute sincérité, que j'ai eu faim. Vraiment faim. La sensation de jamais être rassasiée pendant pas mal de temps. Mais mes grands-parents avaient une maison à la campagne, et quand nous y avions passé l'été, il y avait des mirabelles. Et alors là... Maman achetait des cajots de mirabelles et elle disait « Vous ne vous privez pas, vous mangez tout ce que vous voulez à n'importe quelle heure. » Et alors ma petite enfance, ma petite jeunesse, j'étais élève au couvent des oiseaux. Je ne sais pas si vous connaissez ça, alors c'est un peu bourgeois, un peu huppé. C'était de bonne sœur. Entre nous des garces, hein, parce qu'elle voyait du mal partout, et c'était stupide, quoi.
C'est-à-dire, elle voyait du mal partout
Eh bien, s'il y avait... C'était pas mixte, déjà. Les pensionnaires n'avaient pas le droit d'envoyer du courrier librement. C'était lu par les religieuses. Et moi, j'ai trouvé ça inadmissible. J'étais quand même à, mettons, 9 ans, 10 ans. Je me suis mise à passer du courrier pour mes copines. Mais sous le manteau, hein, fallait pas montrer ça. Et puis, on parlait beaucoup à ce moment-là d'amitié particulière, ce qui voulait dire homosexualité. Moi, j'étais une petite fille, j'avais jamais entendu parler de ça. Je l'ai su assez rapidement parce que quand j'ai eu 14 ans, j'ai été par ces religieuses soupçonnée d'homosexualité. On m'a convoquée dans le bureau de la directrice, on m'a posé des questions qui m'enfonçaient de plus en plus, parce qu'on me disait « Vous avez des petites amies ?»« Ben oui, ma mère. »« Vous les aimez beaucoup ?»« Oui, ma mère. »« Vous jouez avec elles ?»« Oui, ma mère. » Et les religieuses se sont dit, il y a des gestes qui se sont faits, qui n'auraient pas dû se faire, etc. Elles ont convoqué mon père, qui à ce moment-là était revenu d'Allemagne, et elles lui ont dit, eh bien, votre fille a des amis. Elles sont quatre copines, et elles ont un comportement pas moral. Alors papa a dit, ça m'étonne. Ça m'étonne parce que Noël a beaucoup de frères et il y a toujours des garçons à la maison, des copains, etc. Et elles ont pas très très bien réagi. J'étais un peu dissipée, hein. Faut quand même que je dise ça. Nous dirons que j'étais espiègle. Et alors je les aimais pas. Je les aimais pas, ces religieuses. En fait, juste au moment où la guerre s'est terminée, en 44-45, on allait fumer dans la cabane du jardinier. C'était quand même pas permis, mais c'était suave. Et alors, on y allait toutes les quatre. Et alors, évidemment, on s'est enferré, et on a été prié de sortir de ce cadre. Mais il y avait un aumônier dans cette maison religieuse qui a dit, mais ces petites filles n'ont fait aucun mal, c'était pas dans l'air du temps, ou si ça se faisait, c'était pas là. Et ben si elles partent, moi aussi je pars. C'est un vieux monsieur, un vieux prêtre, plein de sagesse et très très sympa, et ben, c'est ce qui s'est passé. Il est parti. Et moi aussi, mes trois copines également. Quand maman a attendu ses jumeaux, elle m'a beaucoup expliqué tous les problèmes de natalité. Elle n'est peut-être pas rentrée dans tous les détails parce que j'étais quand même une petite fille de 12 ans. Est-ce qu'elle a bien fait, mal fait, j'en sais rien. Mais elle avait son ventre qui grossissait et elle me disait « Mets ta main là, tu vas sentir le bébé. » Et puis à un moment, elle m'a dit, mais c'est pas un bébé, c'est deux. Ton grand-père a écouté avec son stéthoscope sur mon ventre et il m'a dit que j'attendais des jumeaux. Donc, je crois que j'avais un peu peur d'avoir une sœur dans les jumeaux. Mon père aurait bien voulu avoir une deuxième petite fille, mais moi, j'étais secrètement contente parce que je restais l'unique pour papa.
Et pendant la guerre, à Nancy, c'était occupé ?
C'était occupé et j'habitais juste à côté de la Commandantour, qui était un endroit sinistre. On le disait, mais nous, on s'en apercevait pas, les enfants. Mais on disait qu'il y avait des cris, qu'il y avait des tortures. Et voilà qu'un jour, un soldat allemand, à ce moment-là, passe à côté de moi. J'avais deux nattes. Et voilà que le soldat allemand me prend comme ça et m'embrasse. Alors ça, c'était l'horreur. Parce que papa était chez les Allemands et il y avait un Allemand qui m'embrassait. Alors je suis rentrée à toute allure à la maison, qui était à deux pas. Puis j'ai pris un coton avec de l'alcool à brûler. J'ai frotté jusqu'à... Maman dit, qu'est-ce que tu fais ? Il y a un Allemand qui m'a embrassée. Ah, il me dit, mais tu sais, ma chérie, il doit avoir une petite fille de ton âge. Et il est très malheureux parce qu'il ne peut pas l'embrasser. Donc il a vu une petite fille, peut-être tu lui ressembles. Alors il s'est dit, bah, je vais l'embrasser. Ça, c'est pour montrer quand même l'ouverture de maman. Hein. C'était quand même très bien. Mais moi, je me sentais amoindrie et pestiférée. Mais j'ai eu la joue rouge pendant quelques heures. Hein. Ben, on avait quand même peur des Allemands. On avait quand même très peur parce que on a connu. Moi, j'ai eu 4 personnes de ma famille qui ont été en camp de concentration ou fusillées. C'est quand même dur, hein. Pour, les enfants savaient ça. Hein. Alors, on a été libérés en septembre 44. On était à la campagne. Là aussi, on a vécu dans la cave pendant 4-5 jours. Tous les cousins germains, inutile de dire qu'on s'est bien amusés. On nous donnait la permission de sortir pour aller faire pipi dans le jardin. Mais on mangeait dans la cave, on dormait dans la cave, voilà. Et ça reste un très bon souvenir. Mon premier mort, c'est un soldat allemand qui était dans un char à quoi ? 300 mètres de la maison, dans un char qui avait été brûlé. Et ce soldat allemand, il avait été carbonisé. Donc, il était réduit à l'état d'une poupée, toute noire, carbonisée. Et on montait là-dessus, sur le char. Et c'est là où j'ai vu mon premier mort. Bah, j'ai pas eu peur. Maman était très courageuse, très, très courageuse. Tous les jours à midi, après le repas qui était assez succinct, pratiquement jamais de pommes de terre, il y avait des tickets. Il y avait aussi des tickets pour les chaussures, qui étaient des semelles de bois, un peu comme des galoches. Et tous les jours après le déjeuner qu'on prenait avec maman, elle nous faisait une lecture pour nous changer les idées. Et je me souviens que son livre, le livre qu'elle lisait, c'était un livre de Selma Lagerlöf, un auteur danois, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui voyage sur une oie sauvage. Et alors, bon, c'était superbe, c'était très poétique. Et du coup, ça nous emmenait un petit peu loin dans le rêve. Et on avait moins faim, parce que quand on est occupé, on a moins faim. Voilà, avec ça, hein, il faut prendre ce que je dis pour des histoires de martyrs. Hein. C'est quand même... Voilà, donc il y a eu la libération. Moi, j'ai continué à aller en classe au lycée. Et très rapidement après, enfin très rapidement, 4-5 ans après, j'ai rencontré mon mari, qui venait faire ses études à Nancy. On avait indiqué à mon mari, qui s'appelle Paul, que dans cette famille dont je faisais partie, il y avait une flopée de garçons et puis une petite fille. La petite fille avait un peu grandi. Et alors la première fois que j'ai vu mon mari, j'ai trouvé sympa. Bon, moi, je devais être en seconde ou en première. Et il m'a demandé si j'aimais les mathématiques. Je lui ai dit non. Eh bien, je pourrais vous donner des leçons. Ah, j'ai dit oui. Et pendant un bon moment, eh ben, il m'a fait tous mes problèmes que je m'empressais de partager avec mes copines. Donc, on avait toutes de bonnes notes. J'étais nulle en maths. J'ai eu un quart en chimie au bac. Et il m'a dit, j'ai mis un quart parce que si je mets 0, vous êtes éliminée.
L'enfance de Noël a été particulièrement marquée par la guerre qu'elle a vécue au contact des Allemands et des bombardements dans sa ville natale, mais aussi à travers l'histoire d'un père prisonnier. Elle décrit malgré tout des moments heureux, bien entourée par sa famille, jusqu'à la rencontre avec un mari qu'elle n'a pas vraiment choisi, mais pour lequel naît un amour profond et durable.
Donc j'ai connu mon mari, j'avais 16 ans et demi. J'étais avertie beaucoup des choses de la vie. Hein, par contre, ma famille n'avait pas de fortune, mais la famille, les deux familles étaient profondément croyantes. Et donc quand même, les questions morales, on ne badinait pas avec ça. Mais il n'y avait pas ce secret autour de la sexualité, cette espèce de retenue.
Ça veut dire que vous en parlez ?
Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai toujours su que j'allais avoir des règles. Maman n'a jamais caché. Non, c'était... Ma chérie, il arrivera un jour où tu saigneras. Bon, c'était énorme. C'était énorme dans ce temps-là. Par contre, l'homosexualité était, comment dirais-je, souterraine. C'est-à-dire que quand on voulait en parler, on mettait sa main comme ça. C'était chute. Je vous le dis, mais n'en faites pas cas. Ça avait un côté un peu malveillant. Les Américains étant en France en grand nombre, il y a eu pas mal de petits-enfants franco-américains. Et les Africains, les Afro-Américains plutôt, avaient donc des enfants avec un peu de couleur. Je sais qu'à Nancy, il y a des mamans qui disaient « Oh ben cette dame-là, elle a un enfant un peu noir parce qu'elle a mangé du pain d'épices. » Donc, c'est pour dire, hein.
Et donc avec votre mari, il vous a aidé à faire vos problèmes de maths. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, mon mari, donc, je l'ai rencontré. J'ai passé un an comme ça. On le voyait, il venait manger avec mes frères, et mes parents et moi. Bon. Et puis, il est venu plus assidûment. Et il est parti faire un voyage d'études en Finlande. Je ne sais pas s'il m'a manqué. Je ne sais pas, mais en tout cas, il m'a rapporté un foulard. J'ai trouvé que c'était très gentil. J'aimais bien qu'il vienne. Et puis, il m'est arrivé une appendicite grave. Et alors là, je crois qu'il a paniqué, parce qu'il dit « elle va mourir ». Il m'a vu partir en ambulance pour une opération extrêmement urgente. Et il est venu tous les jours me voir à l'hôpital. Alors ça a créé quand même un peu de... Je le trouvais quand même très très bien. Il était ingénieur des eaux et forêts. Il avait fait l'agro. Et d'après son classement, il n'avait pas les eaux et forêts de métropole. Il devait partir en Afrique. Mais à ce moment-là, l'Afrique, c'était l'Afrique d'outre-mer. Hein ? Il n'y avait pas de différence. Donc, il s'est dit... Je voudrais bien épouser cette fille-là. Alors, il a fait quelque chose qu'on ne fait plus du tout maintenant, c'est-à-dire qu'il est allé voir mes parents. Et il leur a dit, ben voilà, je crois que j'ai très envie d'épouser votre fille, mais je vais partir en Afrique et je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mes parents ont dit, mais c'est pas à nous de décider, c'est à elle. Mais de notre côté, on vous aime beaucoup et on vous trouve charmant, enfin, voilà. Et alors un beau soir, il s'est déclaré dans ma chambre et il me demande comment je vais. Et il me vouvoyait. Et moi, je le vouvoyais aussi. Mais mes deux parents se vouvoyaient. Nous vouvoyons nos parents qui vouvoyaient leurs parents, qui vouvoyaient leurs parents. Donc c'est aussi comme ça chez vous. Et alors, comment est-ce qu'il m'a dit ça ? Il m'a dit, ben, Noël, j'ai quelque chose à vous dire. Je crois que je vous aime et je voudrais vous emmener en Afrique mariée, mais je ne sais pas si de votre côté vous êtes amoureuse de moi. Alors j'ai dit, mais je crois que petit à petit des sentiments sont arrivés. C'était peut-être pas un coup de foudre, mais c'était une très grande estime et un désir d'être avec lui. Je ne peux pas parler de désir sexuel parce que nous étions très retenus l'un et l'autre. Et puis, bon, il n'y avait rien d'engagé. Donc, voilà. Et mes professeurs ont su que j'étais fiancée parce qu'il y avait eu un avis dans le journal. Dans ce temps-là, les fiançailles étaient annoncées. Et mes professeurs m'ont dit, fiancée ou pas, vous devez travailler. C'est pas parce que vous êtes fiancée que vous allez tirer au flanc, etc. Donc, je savais qu'il fallait... Mais j'avais toujours mes problèmes de maths faits. Hein. J'envoyais les données en post-restante à mon mari, à mon fiancé, quand il était en tournée, parce qu'il allait en forêt. Et il allait chercher une lettre post-restante, parce qu'il fallait que j'aie mon problème. Nous avons été fiancés 18 mois. Sans aucune sexualité, hein. Il n'y avait pas de, comment est-ce que j'allais dire, d'avance.
Il y avait quand même des bisous.
Ah oui, bien sûr, tout à fait d'amoureux, hein. Et alors j'avais été à Velard il y a 70 ans, donc en août 51, au mariage d'une cousine de Paul. Et comme j'étais fiancée, j'étais invitée. J'avais une bague, j'étais invitée. Et bien entendu, là aussi, nous allions dans la chambre l'un de l'autre. Hein, et on a pris la décision, à ce moment-là, de se dire « tu ». Et Paul et moi, nous pensons qu'autour de nous, on s'est dit « bon, ben, ils ont fricoté, maintenant ils se tutoient ». Ce qui n'était pas le cas. Hein, ce n'était pas du tout le cas. Parce que je pense que, qu'est-ce que nous aurions fait s'il n'y avait pas eu de grossesse possible ? Je peux pas dire. Mais c'était comme ça. Et on ne dérogeait pas.
Et c'était pas trop dur d'attendre ?
Si, c'est dur. Bien sûr que oui. On a trouvé que c'était long. On trouvait que ça tardait. Hein. Mais je dis très souvent, j'ai mérité ma robe blanche. Parce que la robe blanche, elle se donnait pour la virginité. Et moi, je suis arrivée vierge à mon mariage. Je n'ai pas peur de le dire. Mais j'étais quand même bien au courant de la maternité possible et du plaisir souhaité, que je ressentais quand même, hein, parce que notre corps, il parle pour nous. Hein.
Comment c'était votre mariage ?
Alors, ça aurait dû être une grande fête, encore que ça ne ressemblait pas du tout à un mariage, à ce que ça ressemble maintenant. Maintenant, on a vraiment envie de la fête physique. Danser, chanter, boire un petit coup, un gros coup, se saouler. C'était pas possible, ça. C'était pas possible. D'abord, les mariages se faisaient le matin, à l'église. J'étais mariée de la veille à la mairie. Mais les mariages, il y avait une messe à 11h, qui durait parce que les félicitations se faisaient debout. Chaque personne assistant au mariage allait féliciter les mariés et faire des vœux et féliciter les parents d'un côté et de l'autre. Donc ça, nous étions très connus à Nancy. Mes parents étaient quand même très très nancéens, très très connus. Donc il y avait du monde. Alors après ça, nous avons eu un repas assis, placé. Mais j'avais perdu une tante 15 jours avant et on n'a pas pu danser. Parce que dans ce temps-là, le deuil interdisait la danse. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Bon, on a regretté. Mais en fait, ce qui nous intéressait, nous deux, c'était d'être mariés. Voilà. Et on nous avait prêté un petit appartement pour notre nuit de noces. C'était une tante qui avait dit bah, on vous passe notre petit appartement. Elle avait bichonné ça.
La nuit de noces, c'est donc vous saviez que c'était là où vous alliez faire l'amour. C'était
bien sûr.
Vous saviez.
Ah, mais bien sûr. Mais je le souhaitais vivement, en plus. Et Paul aussi. Ah oui, il n'y avait pas du tout de. Je tombais pas de mon haut. Hein. J'étais. Non, tout à fait. Par contre, je savais bien que la contraception marchait en général assez mal, parce que maman m'avait dit c'est la méthode Ogino, c'est très aléatoire, il faut avoir un cycle qui marche très très bien, etc. Bon, c'était notre première expérience. On s'est dit, si on a un enfant, c'est pas la cata, etc. Nous dirons que le plaisir était peut-être moins proportionné, parce qu'il y a quand même une défloration qui peut être quand même un petit peu, mettons, on va dire gênante, ou c'était mieux après. Nous dirons. Mais je crois qu'on était l'un et l'autre bien, bien informés. Papa aussi m'a parlé, puisque je crois que la veille de mon mariage, il m'a dit, alors ça, je crois que c'est la première fois que je le dis, je ne l'ai même pas dit à mes enfants, je crois qu'il m'a dit, tu sais, il faut être très habile pour ne pas avoir d'enfant, le mari doit se retirer. C'est à moi qu'il a dit ça, c'est pas à Paul. Donc vous voyez que mes parents, c'était quand même... des gens modernes pour l'époque. Pour l'époque. On s'est mariés en avril 52 et nous sommes partis en mai 52 pour l'Afrique. C'était quand même un énorme saut dans l'inconnu. Parce que j'avais 19 ans, même pas. Et je suis partie 3 semaines après mon mariage. Et j'ai vu mes parents pleurer quand même. Et moi, j'étais super heureuse, j'avais pas du tout envie de pleurer. Il fallait préparer les cantines pour notre vie commune. Je m'entendais très bien avec ma belle-mère, qui m'a, je crois, beaucoup aimée. Oui, beaucoup aimée. Elle n'a pas été jalouse que je lui prenne son fils aîné. Elle était un petit peu ennuyée que j'ai 17 ans parce que elle trouvait que c'était jeune pour s'engager. Et moi, avec le recul, je dis aussi ça. Jamais, entendez bien, jamais un adulte ne m'a dit « Est-ce que tu crois que c'est le bon ? Est-ce que tu as fait le tour du problème ? Qu'est-ce qui se passera si tu pars loin de ta famille et que ça ne va pas ?» Il n'y a eu aucune mise en garde. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'était l'Afrique à ce moment-là. C'était la brousse, c'était la forêt, c'était pas de médecin, de l'eau qu'on devait filtrer, pas de pharmacie, pas de magasin, un ravitaillement qu'on faisait une fois par mois. Par contre, une vie... avec un boy, un cuisinier, un marmiton, un blanchisseur et un jardinier. Ça faisait 5 serviteurs pour la petite nono. C'était quand même un peu beaucoup.
Vous étiez excitée à l'idée de partir en Afrique ou un peu
effrayée ? Ah, très très contente. Il y avait aussi un idéal chrétien là-dedans. C'est qu'on allait dans un pays d'Afrique pour servir, développer un pays. C'est pour ça que quand on nous traite... Quand on me traite de colonialiste qui s'est enrichi sur le dos des Africains, ça me fait vraiment mal. Mais je pense qu'on était de famille idéaliste. Et nous avons toujours, depuis 65 ans, une famille africaine qui nous aime. Et dont l'un est en France et que je considère comme mon petit-fils, malgré sa peau noire. D'abord, on est arrivé un mois et demi après. Une dame qui est devenue après mon amie m'emmène en course. Elle avait une 4 chevaux et elle attendait un bébé. Et alors, elle me dit, alors, cette adaptation à l'Afrique, ça se fait bien ? Je lui dis, oui, ça se fait bien, je suis contente. Je suis un peu fatiguée. Alors, elle me dit, vous êtes peut-être enceinte ? Oh, je dis, je viens juste de me marier. Elle me dit, mais justement. Et alors, sitôt dit, sitôt fait, elle m'a fait monter à l'hôpital où le docteur, il m'a dit, bah oui, je pense que vous êtes enceinte, mais on va vérifier avec un test. C'était pas le petit test actuel. Il fallait que mes boys cherchent dans la brousse des crapauds. En grand nombre, parce qu'il fallait qu'il y en ait de sexes différents. C'est pas toujours visible, hein, je vous préviens. Les crapauds, c'est pas absolument visible. Et alors, on injectait aux crapauds de l'urine venant de moi. Et si j'étais enceinte, ils sécrétaient des spermatozoïdes. Ça s'appelait le test du crapaud. Mais il y avait aussi en France le test de la lapine. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Test de la lapine, mais il n'y avait pas de lapin là-bas, il y avait des crapauds. Et voilà comment j'ai su officiellement que j'étais enceinte.
Par un crapaud.
Par un crapaud. Et j'ai écrit à la famille, alors Bernard avait déjà demandé 3 fois à sa mère, ils n'attendent pas d'enfants, moi j'étais mariée depuis 1 mois et demi, hein, alors ils t'ont pas parlé d'espérance. Ma belle-mère me disait, mais écoute, laisse-les tranquilles, ça te regarde pas. Et alors finalement, on a pris notre plus belle plume, Paul pour sa maman, et moi pour mes parents. Et papa m'a répondu une lettre très, très marrante, très sympa, en me disant, tu vois, je suis fière, je vais être grand-père, je suis dans un bonheur, tu me donnes une joie immense, ma chérie, mais je suis quand même déçue, parce que j'aurais espéré qu'on fasse le test avec un lion. Il trouvait que le crapaud, c'était pas très noble. Hein. Voilà. Et puis...
Vous étiez contente d'être, de devenir maman?
Ah oui. J'étais... Je ne peux pas dire que j'aurais pas attendu un peu plus, mais je ne me le suis pas formulée comme ça. Mais Paul, oui, t'es très très fière.
La vie de femme de Noël a démarré très tôt. Trop tôt peut-être. Elle a été immergée jeune dans un univers colonial et d'expatriation qu'elle a, à sa façon, adopté. Sa connaissance précoce de son propre corps et de la sexualité sont une vraie richesse qu'elle utilise tout au long de sa vie.
Et à mon 8e mois de grossesse, j'étais en pleine brousse. Hein. Il n'y avait pas de photographie, il n'y avait rien, rien. Donc j'ai été dans un village qui avait été peut-être à 30 ou 40 kilomètres. Il y avait là une sage-femme européenne. Et on allait vérifier que tout allait bien, que le bébé était dans la bonne position, etc. Et alors je la revois avec son truc à l'oreille. Et elle me dit, ma petite amie, je pense que vous attendez une fille. Ah, je dis, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible, mademoiselle. C'est une vieille fille. Il me dit, comment c'est pas possible? Ben, je dis, parce que dans ma famille, tout le monde a des garçons. En premier. Elle dit, ben, vous allez avoir une fille en premier. Ah, bon. Et c'était une fille.
Et vous étiez contente?
J'avais 19 ans. 19 ans. Et j'étais accouchée à 75 km de l'endroit où j'habitais. Sur une piste, par une piste très peu carrossable. Et mon blanchisseur, celui qui lavait le linge, est venu avec moi. J'ai eu à disposition une petite case pour moi où il ne dormait pas. Il dormait devant ma case, par terre. C'était comme ça. Et il me gardait parce que Paul était tout le temps en tournée. En forêt. Et l'accouchement était assez difficile, sans électricité. C'était une lampe tempête. Vous voyez ce que c'est que les lampes tempêtes, hein? Voilà. Et bon, ça s'est quand même bien passé.
Et pourquoi il était difficile, l'accouchement?
Eh bien, parce que ben, je crois que un premier enfant, il faut qu'il fasse son chemin. Ça durait 3 jours, mais bon. Ah oui.
3 jours.
J'ai commencé à avoir mal le vendredi matin, j'ai accouché le dimanche soir. Mais ça aurait été ici, j'aurais eu une césarienne. Mais pour avoir une césarienne, il fallait que je refasse les 75 kilomètres, plus un avion, pour arriver à Douala.
Et Paul était là ?
Oui, mais il n'a pas eu le droit d'assister. Dans ce temps-là, les papas n'assistaient pas. Il n'a assisté à aucun de mes accouchements. Je me dis que j'étais quand même courageuse. Je ne veux pas m'envoyer de fleurs, mais c'était quand même une drôle d'aventure.
Vous étiez dans quel pays ?
Cameroun.
Et donc vous n'étiez pas à Douala, vous étiez...
Ah non, j'étais en brousse. J'étais en brousse. Après la naissance de Chantal, j'ai attendu un autre enfant qui... et j'ai fait une fausse couche. Une vraie fausse couche.
À combien de mois ?
Deux mois et demi. Et j'ai fait savoir à ce médecin que je saignais. Et il est tout de suite venu et il m'a dit « Je ne vous ausculte pas. Tout ce qui sortira de vous doit être mis dans une... doit être dans une serviette éponge pour qu'on puisse voir si tout est là, si c'était... » Et voilà. Il y avait un début de grossesse, quoi. Et donc, ça, je n'en ai pas parlé à mes parents. Et c'est quand je suis rentrée en France en 54, ce médecin africain m'avait dit « Il vaudrait mieux que vous n'ayez pas d'enfant pendant un moment, parce que ça risque de recommencer, voilà. » Et alors ça, c'était vraiment la contraception pure et dure, hein, les bons jours, les mauvais jours. On n'imagine pas, hein, ça me semble archaïque maintenant, c'est incroyable.
Mais c'est-à-dire, comment ça la contraception
Eh bien, on savait quand même qu'il y avait une ovulation et j'avais la chance d'être réglée à peu près normalement. Donc... ça a marché, mais c'est pas fiable, hein. C'est pas fiable. Je n'ai pris la pilule que à 38 ans, parce qu'à ce moment-là, je souhaitais ne plus avoir d'enfants et les moyens étaient mis à ma disposition. C'était la libéralisation de Simone Veil.
Vous êtes resté combien de temps au Cameroun ?
Jusqu'en 59, 7 ans. Moi, j'ai laissé mon cœur là-bas. Hein. Ah oui. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que j'aurais aimé questionner des femmes africaines pour faire une enquête sociologique, parce que j'étais dans un pays animiste. Vous voyez ce que c'est, hein ? La religion de la nature et des ancêtres. Et j'aurais bien aimé pouvoir savoir comment c'était vécu. J'étais trop jeune. Et Paul était très jaloux. Très jaloux au début de notre mariage. Très, très jaloux. On n'avait qu'une façon de s'amuser, c'était de danser. On n'avait pas d'électricité, donc on avait un... Comment ça s'appelle ? Un gramophone.
Un gramophone.
Qu'on remontait avec une aiguille qui était sur un bras. Et alors, on avait des disques quand même, entre les uns et les autres, on avait des disques. Et on dansait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et s'il voyait que je dansais deux fois avec le même garçon, il était très, très fâché. Très fâché. Alors, je lui ai dit un jour, tu sais, tu vas avoir des raisons d'être fâché, parce que si tu fais ça, j'irai jusqu'au bout de mes entreprises pour que tu... te donner justice. Après ça, ça s'est calmé. J'ai eu 3 enfants en Afrique. C'est-à-dire que la troisième, elle est née à Autun, mais je l'ai ramenée, elle avait 3 mois. Et elle a été très, très malade. Très malade en Afrique, elle a été rapatriée sanitaire. Mais à ce moment-là, on habitait la capitale, Yaoundé. Donc, ça, c'était une très, très grosse épreuve. Très grosse. Parce que quand le médecin m'a dit « Je ne sais pas si ce bébé pourra passer la saison sèche très chaude », Ça m'a vraiment fait très peur. J'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient l'accueillir quelques mois, ce qu'ils ont fait. Et quand elle est rentrée, ben, elle était bien, mais en fait, au moment où elle est tombée malade, elle marchait. Après ça, elle n'a plus pu marcher, tellement elle était fragile, et elle a remarché en France. Donc après ça, ça s'est à peu près normalisé. Mais ce petit enfant que j'ai confié à l'avion et à une infirmière, maman étant à Orly, c'était Orly à ce moment, c'était pas Roissy. Ça a été 7 mois très durs, très très durs.
La séparation.
Ah oui. Et sans me culpabiliser, je me suis demandé quand même si j'avais bien fait de renvoyer cette petite toute seule. Elle en a eu un peu de séquelles psychologiques. Alors, il y a eu un sentiment d'abandon qu'on a détecté très tardivement. Mais elle a toujours eu peur d'être abandonnée, d'être moins aimée. C'est une épreuve, ça. J'ai vu beaucoup de bébés mourir, de bébés européens mourir. Et ça a toujours été en fond de tableau, hein, dans ma tête. Toujours.
Le retour à Paris, comment ça s'est passé
Dur. Ouais. Dur le retour. Moi, j'ai mis 3 ans. Hein. J'ai mis 3 ans à ne pas avoir de tristesse, de regret. J'aimais bien ma vie.
Et vous y êtes retournée après ?
20 ans après, on a fait un voyage d'agrément. On a été revoir nos boys, notre maison, notre... tout ça. Et les boys, c'était assez touchant parce qu'ils disaient « Ah, madame, t'es revenue, on va avoir du travail. »« Ah, patron !» Alors ça, c'était mon mari. « Ah, patron, tu sais, je fais toujours comme tu m'as dit. » Les petits arbres, je les plante à 50 cm pour les repiquer. Et puis après ça, on les envoie chez les villageois, etc. C'était très touchant. Et puis, on a revu notre blanchisseur, ce Joseph, qui, quand il est mort, a dit à son fils, « Tu vas prévenir, monsieur et madame Rérol, que je vais être mort, que je suis mort. Et tu leur diras que maintenant, c'est eux, tes parents. » C'est ce qui s'est passé. Il avait 3 femmes, 13 enfants. Mais nous n'avons pris la responsabilité que d'un. Le petit-fils, il habite en France et il est ingénieur informaticien. Il est marié avec une cabrodaise. J'ai donc une arrière-petite-fille noire. Et ils sont venus pour le mariage de ce garçon qui s'appelle Rodrigue. Et nous étions les seuls blancs au milieu de 300 Africains. Il y a eu des discours, on a évoqué la vie d'Afrique, ils ont dansé, Nina dansait avec les petites Africaines qui étaient là. Moi, ça m'a semblé le paradis. Je me suis dit, c'est ça l'amour, c'est penser qu'on est tous pareils, quoi. C'est fini maintenant, j'y retournerai plus. Mais je peux pas voir un reportage sans avoir un petit peu les larmes aux yeux. Je suis jamais ennuyée, moi, avec mon mari. Jamais. Et on avait beaucoup, on a pu échanger beaucoup. Et jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la veille de sa mort. Donc, je pense que la passion qu'on a eue, enfin, la passion, la tendresse, l'amour, le désir qu'on a eu, se sont transformés d'une façon difficile à expliquer, mais qui recouvrait aussi l'estime, la reconnaissance, la confiance. C'est pas toujours. On s'est affronté aussi, hein. Je vais pas vous dire que ça a été le long fleuve tranquille. Non. Faut pas. Je pense que nous avions tous les deux du caractère. Il disait que je le commandais, mais c'était bien réciproque. On a beaucoup parlé. Quand il y a un malentendu, quand il y a un nuage sérieux, bon, si on s'affronte en disant tu m'emmerdes, bon, mais ça c'est pas grave. Mais quand il y a quelque chose de sérieux, on se met en rond et on parle. Et quelques semaines avant de mourir, il m'avait dit tu sais, quand je vais mourir, j'ai peur d'avoir mal. Parce que il avait l'air très fort comme ça, mais en fait, il avait tout à fait besoin que je le rassure. Je crois que j'ai passé ma vie à le rassurer. Oh, ben, j'ai dit, on est tous pareils, mon vieux. Alors il me dit, parce que tu vas mourir. Ça ne me fait pas peur. Parce que quand je vais voir Dieu, ben, je serai tellement inondé de sa lumière que je ne pourrai que me jeter dans ses bras. Ben, vous savez, quand vous entendez un monsieur de 91 ans dire ça, ça fait drôlement réfléchir, hein. Mais faut pas que vous pensiez que je suis une bigote, hein.
C'est quoi une bigote?
Ah, une bigote, c'est quelqu'un qui a l'eau bénite à la main et qui passe son temps à
faire... Vous avez pas l'air d'être ça, hein.
Non, j'aime bien m'acheter une robe, j'aime bien me mettre des boucles d'oreilles. Et...
J'adore les vôtres.
Maintenant, pourquoi le témoignage de Noël vient clôturer cette saison en beauté? Il est rare d'avoir accès à une parole libre comme la sienne, à un récit si riche et si particulier. Noël est le témoin vivant d'une époque qu'elle ressuscite à travers ses mots de façon puissante et juste. Noël, un grand merci pour votre confiance et le temps que vous nous avez accordé. Et voilà, notre saison s'achève. Merci à toutes et tous d'avoir contribué sur Ulule pour permettre ce tour de France des mamies. Ce fut un réel plaisir. Nous avons rencontré des femmes incroyables, eu des discussions très très riches et nous avons beaucoup 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 appris. Merci à toutes ces mamies d'avoir raconté leur vie à notre micro et merci à vous pour votre soutien et votre fidélité sans faille.
Oh mes enfants, vous me faites parler.
Vous voulez boire un coup?
Voilà, je vous ai saoulé, hein.
Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts, ou simplement de partager avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout allez-y. Trouvez-nous sur les réseaux, @mamiepodcast, ou par mail, à bonjour@mamiedanslesorties.co. À bientôt!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.